L'an dernier, Guillaume Herner, que l'on connaît bien comme l'animateur des matins de France Culture, publiait « Judéo-obsession ». Son nouveau livre est consacré à ce qui fut, pour ainsi dire, une obsession juive annoncée dès le titre « Shmates ». Guillaume Herner évoque un monde disparu, celui du sentier, de la confection des fringues, un monde qui fut pour lui à la fois une matrice familiale, un décor d'enfance, un milieu de travail et un fragment de l'histoire juive parisienne. Le « Shmates », écrit-il, c'est l'art de produire des fanfreluches sur fond de tragédie. C'est un drôle de livre qui oscille entre l'enquête sur les transformations d'un secteur économique avec son folklore, ses fantômes, ce qu'il engage comme technologie de survie, pour reprendre une de ses expressions, et comme destin social pour plusieurs générations d'émigrés juifs à Paris. Donc entre l'enquête objective, on pourrait dire, et l'investigation intime, avec humour, l'auteur y mène quelque chose comme une auto-analyse, une réflexion sur ce que signifie être juif dans le capitalisme français, sur l'ordre social qui propulse autant qu'il broie, sur les 10 books qui hantent les appartements des morts et les rues de quartier dont la physionomie a changé. Je suis le premier schmatologue à me pencher sur cet objet. Je ne veux pas présenter une histoire du sentier, mais mon histoire du sentier. Alors bonjour Guillaume Herner, on va revenir
bonjour
sur cette histoire.
Stéphane.
Et j'ai demandé à Richard Audier, qui avant d'être notre directeur général du FSJU, a comme vous longtemps travaillé dans le secteur du schmates.
Bravo Richard.
Et qui enseigne encore aujourd'hui à l'Institut de la Mode un cours sur la finance et la création. Peut-être on y reviendra, mais ce sera intéressant de vous voir à un moment donné échanger sur ce qui est une dimension d'un livre que j'ai pour ma part plutôt lu, j'ai découvert beaucoup de choses sur le schmates, qui est un monde que je ne connais pas, comme un récit de formation en quelque sorte. C'est quand même un livre extrêmement intime, comme je disais, une auto-analyse. Et évidemment, c'est là-dessus que aussi je voudrais qu'on se penche. Vous ouvrez le livre comme ça. C'est le moment de tout déballer, sans phare ni détour. J'ai déjà trop tardé. Et puis à quoi bon vivre si l'on ne ressuscite pas les morts? Je veux redonner souffle et vie à un monde disparu. Le quartier du Sentier, du Shmates, les fringants yiddish. Première question assez simple, en fait. Qu'est-ce qui, selon vous, a disparu au juste? C'est un quartier, un métier, une langue, une sociabilité, une manière juive d'habiter le monde, tout ça en même temps qui se mélange?
Tout ça à la fois. C'est-à-dire que lorsqu'on y réfléchit, il n'y a plus, contrairement à ce que pensent certains, une spécialisation juive dans un domaine ou dans un autre. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il y a eu tout au long de l'histoire, pour des raisons évidentes de discrimination, d'émigration, etc., une spécialisation juive. Alors on peut dire que, pour plaisanter, il y a beaucoup de juifs dentistes, mais si on regarde les choses, moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont tous été tailleurs. Ils étaient tous dans les fringues, donc dans le schmates en yiddish. Moi-même, comme je n'ai pas très bien compris la règle du jeu, j'y ai été aussi. Et aujourd'hui, lorsqu'on observe les choses, ce secteur n'existe quasiment plus. Richard y a encore quelques amis, mais ça n'est pas si fréquent que cela. Et donc, pour la première fois, ça n'est pas facile, en regardant quelqu'un, de se dire, oui, lui, il doit être dans le schmates parce que les métiers sont beaucoup plus divers. Et donc ce monde disparu est un monde qui a emporté son folklore, sa langue, ses pratiques, etc. C'est-à-dire c'est un univers complet qui aujourd'hui n'existe plus.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le mot schmates, qui paraît modeste comme ça, presque trivial, et pourtant vous lui donnez un poids considérable. Qu'est-ce que ce mot, il concentre, que le mot fringue ne concentre?
Alors d'abord,
pas que la mode, c'est l'autre chose que le vêtement. Ce qui frappe, c'est que ce n'est pas un objet léger pour vous.
Alors, absolument, mais d'abord, c'est un mot en yiddish, et le yiddish est une langue chère à mon cœur, puisque c'est en fait la langue maternelle de mes parents, ce qui là aussi est quelque chose de très étonnant, parce que c'est une langue, donc comme le dit Singer, ce n'est pas une langue morte, c'est une langue de gens qui sont morts.
Et donc, Rachel Hertel dit que c'est une langue assassinée.
Langue assassinée, langue que vous n'entendez plus, sauf dans certains films, sauf chez certains locuteurs, mais qui sont des locuteurs qui ne le prennent pas mal, mais des locuteurs artificiels, parce qu'en réalité, ça n'est plus véritablement une langue vernaculaire. Et donc, moi, j'ai toujours entendu mes grands-parents qui ne parlaient que yiddish, mes parents qui parlaient français, mais qui s'exprimaient plus volontiers en yiddish lorsqu'ils étaient entre eux, utiliser ce terme qui était un terme à la fois nourricier, puisque tout le monde était dans le schmates, on faisait du schmates, c'était évident, si vous voulez, aussi évident que vous portez des chaussures. Et c'est un terme qui est à la fois familier, affectif, péjoratif, puisque le Chepatès, c'est de la camelote, donc c'est pas quelque chose de... mais c'est aussi quelque chose qui désigne la manière que vous avez de vous nourrir, parce que quand vous bossez, vous faites du Chepatès nécessairement, et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est effectivement un terme chargé.
Peut-être que c'est aussi une notion que les gens connaissent moins, c'est une filière. C'est-à-dire qu'on a le côté Chepatès du sentier, qui est la vente des produits en gros en fabrication, un petit peu la partie distribution à travers les magasins, mais aussi pour ce monde juif, c'était les inventeurs de la récupération du textile. Et dans mes grands-parents, il y avait une partie qui était tailleur, mes parents, etc. Et l'autre partie de la famille qui était aussi dans le Chepatès, mais ils étaient des récupérateurs, c'est-à-dire c'est des ballots de tissu, des ballots de chiffon. Et c'est en fait une vraie filière industrielle qui démarrait de la fabrication, de la récupération, le recyclage. Et c'est cette notion-là de ballot, effectivement. C'est-à-dire c'est un bout de tissu et on le fait vivre le plus longtemps possible.
C'est tellement vrai que pendant la guerre, c'était ce que faisaient mes grands-parents. C'est-à-dire, comme il n'y avait plus de tissu, ils transformaient les vêtements en ouvrant les coutures, etc. Enfin, travail de titan.
Oui, et pendant la guerre, justement, contexte très particulier, vous y revenez très très souvent. Vous revenez sur l'histoire de votre famille et donc l'histoire de ce qu'a représenté le Chepatès dans votre famille. Et en tant qu'effectivement, elle est frappée par la Shoah, et c'est très... C'est très vite que dans le livre, on pourrait dire, un climat s'installe. C'est étrange parce que le livre va parler du Chepatès dans sa dimension concrète. Et pourtant, très tôt, cette ligne-là, cette identification, hein, elle travaille le récit en profondeur, d'emblée.
Oui, parce que, effectivement, quand vous dites que c'est chargé, mes grands-parents ont eu évidemment à se cacher pendant la guerre et ils ont survécu grâce au Chepatès, parce qu'il vendait des vêtements que mon père allait chercher, puisque mon père avait 13 ans, il ne portait pas les toiles jaunes, il pouvait circuler. Mes grands-parents avaient décidé de se cacher à Drancy, ce qui n'était pas à la fois pas une très bonne idée, mais finalement aussi, puisqu'ils ont survécu. De l'autre côté, donc du côté de la famille maternelle, mon grand-père, lui, était tailleur également, et il faisait des vêtements au camp de Pithiviers et de Beaune-la-Ranglande, ce qui lui a permis de se mettre bien avec les gardiens. Et un jour, un gardien lui a dit « Zeltman, ça sent mauvais ». Et mon grand-père a compris qu'il devait fuir. Il a fui, mais il n'a pas réussi à embarquer son beau-frère dans cette évasion qui, lui, n'a pas voulu tenter sa chance. Et bon, il n'y a plus eu de beau-frère... Ensuite, donc, si vous voulez, pour moi, ce métier a été associé à la vie et à la mort. Et par un hasard de l'histoire, en fait, assez prosaïque, mon père, qui avait tout à fait les moyens de me payer des études, avait peur que je devienne oisif en étudiant la sociologie. Ça ne lui paraissait pas vraiment un vrai métier, une vraie filière. Donc, il m'a plus qu'incité, disons, à travailler. Ma sœur sortait avec un garçon dont le frère était au sentier. C'est comme ça que j'ai commencé au sentier.
Quand vous travaillez au sentier, vous découvrez un monde qui n'est pas exactement celui de la boutique de votre père. Hein. C'est un monde un peu différent parce que ce que vous racontez aussi, c'est le basculement, une prise de relais, on pourrait dire, entre le monde ashkénaze et le monde séfarade. Il y a des pages assez drôles, assez longues, et très savoureux sur la manière avec laquelle l'Ashkenaz que vous êtes découvre le monde séfarade.
Oui, c'est ça.
Alors, d'ailleurs, on peut se demander parfois si vous essentialisez pas un petit peu les choses, parce que... Mais, peu importe.
Franchement,
ce qui compte, c'est que dans votre mythologie personnelle, on voit qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, vous franchissez le Rubicon du monde Ashkenaz pour tomber dans un autre monde qui participe de cette formation existentielle qui va être la vôtre à ce moment-là. C'est très marrant. Quoi.
Ce n'est pas un traité de sociologie. Hein, donc,
il y a de la sociologie. Mais on y reviendra peut-être.
Si vous voulez, effectivement, l'idée, enfin, je sais pas, je crois que Richard et Ashkenaz aussi. Donc l'idée, c'est découvrir qu'un juif peut être un juif heureux. Et venant d'un monde qui était un monde ashkénaze, en deuil, très austère, très ascétique, qui, bien qu'ayant des moyens, préférait périr plutôt que de dépenser plus de 50 francs dans des chaussures, parce que l'idée, c'était vraiment de passer le plus inaperçu possible, parce que si on se fait remarquer, on va se faire remarquer des Allemands, et donc il faut passer à travers les murs. Là, au contraire, on était face à des gens qui étaient des juifs jubilatoires, qui ne cachaient pas du tout leur joie, leur plaisir, qui recherchaient le plaisir, qui étaient dépensiers, qui dépensaient plus qu'ils ne gagnaient, qui avaient de grosses voitures, qui partaient en vacances dans des pays lointains. Bref, c'était un folklore complètement différent. Alors, il y avait en fait un aspect... Et c'est en fait finalement ça que je me reproche le plus. C'est seulement maintenant que je me rends compte finalement que chez ces gens-là aussi, il y avait un traumatisme, le fait d'être parti du pays, des pays où ils étaient nés, puisque c'est...
Donc, et souvent dans des conditions d'une violence inouïe. Hein.
Moi, je ne partage pas exactement la même analyse. C'est-à-dire qu'une partie du monde ashkénaze, alors je prends même mon exemple personnel, dans mes grands-parents paternels, ils étaient dans un amour de vie absolu parce qu'ils étaient sauvés, justement. Et donc, ils étaient ruinés en permanence parce qu'il fallait dépenser, aller au banquet. Tous les banquiers du Lutetia, le plus connu pour les anciens déportés, ils en profitaient. Il fallait un banquet pour un enterrement, un banquet pour une naissance. Et donc, c'était une mode de vie. Et le schmates, en fait, était l'expression extérieure de cet amusement. Et l'autre côté, qui était plus austère, aussi dans le schmates, qui était un peu dans le schéma de Guillaume. Mais au sentier, il y avait les Turcs, il y avait les Bulgares, il y avait les Grecs, qui étaient séfarades. Et les Ashkenazes, dès les années 70, étaient aussi dans une forme de libération de l'argent qui venait avec les Trente Glorieuses, avec la fin de la guerre. Et puis en fait, cette réunion, j'allais dire, de gens traumatisés mais qui ne voulaient pas en parler, ça a donné ce fameux sentier qui est si bien décrit dans le livre, avec en fait une folie de vivre. Alors en yiddish, on disait « les chaïm amechaï », en judéo-arabe, on disait « le kiff permanent », mais il fallait vivre justement, et le textile permettait ça. Peut-être que, petite analyse un peu...
Oui. Voilà. Ensuite, chacun a une vision différente. Les miens étaient très idéologues. Je ne sais pas si les tiens étaient...
Une partie, et l'autre était l'idéologie de la viande.
Mais donc, quand on est idéologue, par ailleurs, et donc très communiste pour dire les choses, on n'est pas porté ni sur la marchandise, ni sur les jouissances matérielles. Et puis, l'autre dimension qui m'apparaît maintenant, c'est que... effectivement, il y avait une sorte de manière d'assumer. C'était pas, chez les miens, la question n'était pas de ne pas assumer le judaïsme. On l'assumait parfaitement. Mais, en revanche, on avait un judaïsme qui était très particulier, très bundiste, donc très anti-religieux. C'était la religiosité de l'anti-religion, quoi. Alors que, évidemment, on était beaucoup plus observant chez les séfarades. Et l'idée... était d'avoir un judaïsme beaucoup plus extériorisé, avec la dernière question qui était le rapport à Israël, qui là aussi était un rapport assez étroit, alors que chez les miens, on était dans la contradiction permanente, parce qu'à la fois, il y avait de la famille en Israël, le sort d'Israël leur importait beaucoup, et cependant, on était très...
La mémoire bundiste travaillait encore, quoi.
La mémoire bundiste travaillait... La sensibilité au sort des Palestiniens travaillait énormément. C'était un milieu qui était... Enfin, mon père était très lecteur de la revue d'études palestiniennes, etc. Donc voilà, il y avait ces deux dimensions.
Avec les premiers comités de collecte pour Israël, c'était les comités sentiers. C'est là le paradoxe, qui n'en était pas un d'ailleurs, hein,
qui se faisait... C'est vrai. Alors justement, voilà. Mon père s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il refusait de donner de l'argent pour cette cause-là, et donc il passait pour un traître à la cause.
Tout le monde a en tête, évidemment, la vérité si je mens, qui a posé de manière presque mythologique, hein, dans la représentation que toute la France peut avoir de ce milieu du sentier. Alors, dites-en quelque chose. Qu'est-ce que ces films ont rendu visible, selon vous? Je pose aussi la question à Richard là-dessus. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a invisibilisé? Quelle est la part de réalisme et de mythologie? Enfin, vous qui avez vécu, évidemment, moi, exactement, en plus, la période de l'interview.
Je trouve que c'est un film qui est... c'est un film, donc c'est nécessairement, là aussi, une caricature. C'est un film très drôle, donc voilà. Enfin, c'est une série de films, en plus. Mais alors, moi, ça renvoie à un souvenir très particulier. C'est qu'en fait... l'une des entreprises qui est mise en scène dans ce film, c'est une entreprise que j'ai bien connue, puisqu'en fait, on a repris l'entrepôt de cette entreprise. Cette entreprise, elle s'appelait Prêt pour l'impression. Prêt pour l'impression, c'était une entreprise qui imprimait du tissu. Parce que, donc, il faut que vous sachiez, Stéphane, que lorsque vous voulez faire un pantalon, il vous faut du tissu. Jusque-là, vous suivez. Alors, si par exemple, vous voulez du tissu à rayures, bah, il faut le commander à l'avance, ce qui est compliqué, parce que vous n'êtes pas un type très organisé, donc vous allez vous y prendre à la dernière minute, vous voulez du tissu à rayures. Et donc, une boîte, PPI, a eu l'idée de se mettre à la Plaine Saint-Denis et d'imprimer le tissu que vous voulez, sans que vous ayez à le commander 6 mois, 1 an à l'avance à des Italiens. Et donc, ils faisaient ça dans cette entrepôt, puis ça a très, très bien marché, puisqu'il y avait une vraie demande. Alors, l'entrepôt était très particulier, puisque donc, l'avant, ça ressemblait à l'aéroport de Dubaï, et l'arrière, ça ressemblait à un entrepôt du 18e siècle, avec des types qui poussaient des wagonnets, parce que la teinture est quelque chose de très chimique, de très toxique. Et comme beaucoup d'entreprises du sentier, comme la City, une reprise qui a fait énormément marché et puis qui ensuite a croqué la grenouille, comme on dit.
La City, donc, faut l'expliquer parce qu'on ne l'a pas encore dit, c'est là où vous allez travailler pendant 10 ans de sa grandeur et décadence, on pourrait dire. C'est, vous êtes le Barry Lyndon de la City.
Alors, Barry Lyndon,
c'est l'ascension et la chute.
Mon patron de l'époque. Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que ce que vous dites à juste titre, c'est que pour échouer grandement, il faut réussir grandement. Et c'est parce qu'on a réussi à aller très haut que... Voilà. Et donc, la vérité, si je mente, Thomas Gilou restitue parfaitement cette ambiance.
Alors, peut-être... Là aussi, la vérité sismant, c'est un éclairage formidable de cette histoire d'un quartier, d'une histoire juive, mais aussi on y voit les Arméniens, les Turcs, ce quartier très mixte, les Chinois qui arrivent, on voit toute cette histoire. Mais on n'y voit pas la partie vente finale, c'est-à-dire la distribution. On voit avec la vérité sismant 3, je crois, avec Daniel Prévost, les grands supermarchés. Mais à un moment, une partie du sentier va s'exiler pour faire du magasin. Et c'est les réussites que l'on connaît de ces années-là, Chevignon, Koukaï, Morgan. Alors, Célio, c'est un peu différent parce que l'homme et la femme, c'est encore une grande rupture dans le monde du schmattes. Mais voilà, il y a cette partie où une grande majorité des gens de ce quartier du sentier va essayer de s'en sortir vers l'ouverture de magasins. C'est un des exemples de la City, ce qui va donner le fleuron du commerce français des années 80, 90, 2000. Et ça, c'est une réussite vraiment incroyable que ne montre pas le film.
C'est vrai.
Alors, années 90-2000, ça, c'est votre période. On a dit grandeur et décadence, grande réussite et grande faillite derrière. C'est pas que personnel à la City, c'est tout un monde qui disparaît en même temps, avec peut-être quelques îlots de survie à droite à gauche, hein, mais quelques réussites. Mais au fond, il y a, vous dites que vous n'avez pas fait un traité de sociologie, mais vous avez quand même fait la chronique sociale d'un monde qui, à un moment donné, est dépassé par un nouveau capitalisme qui va le broyer.
Absolument. Alors, tout le monde a fait faillite, mais nous, on a été les pionniers. Hein. Il ne faut quand même pas nous retirer cette... C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que je remarque rétrospectivement, c'est que, bon, effectivement... comme Marx l'explique si bien, le capitalisme est une révolution permanente des moyens de production. Et donc, entre le moment où on introduit le prix unique dans les grands magasins et Chine, il y a toute une série d'entreprises qui apparaissent et disparaissent. Mes parents, alors eux n'ont pas fait faillite parce que, quand même, ils avaient leur dignité. Mais mon père a quand même passé des années à ramer parce que le mécanisme du prêt-à-porter, c'est-à-dire faire des vêtements de bonne qualité, fabriqués en France, sans marque.
Qu'on va garder des années.
Qu'on va garder des années, là mais qui ne sont pas d'une marque ou d'une autre. C'est évidemment quelque chose qui a cessé d'exister. La City était une entreprise qui proposait des vêtements aux femmes qui commençaient à travailler, mais il y avait une gamme assez étroite. Lorsque Zara est arrivée, ça a été une concurrence terrible. Zara faisait en quelque sorte mieux que nous, c'est-à-dire moins cher, des produits qui étaient de qualité tout à fait comparable. Et donc je pense que même si nous avions été plus organisés, on aurait eu du mal à tenir. Et aujourd'hui, quand vous faites le bilan, Richard...
Oui, le secteur est mort pour plein de raisons. D'abord, il a intéressé les financiers parce qu'il y avait une croissance. normal, économique. Il y avait une capacité d'ouvrir des magasins, parce qu'il y avait les centres-villes qui commençaient à vieillir et s'ouvraient des centres commerciaux un peu partout dans les centres-villes. Et donc l'acquisition d'un fonds de commerce, c'est-à-dire ouvrir des magasins pour le vendre, ça se faisait assez facilement. Et c'était vrai de Limoges à Béziers, en passant par Lille, Clermont-Ferrand, Toulouse, etc. Et donc les financiers, ils voyaient une capacité de croissance d'un modèle économique duplicable, assez simple, c'est-à-dire on dupliquait un format et on le mettait dans une autre ville. Et ce format, pour qu'il puisse tenir, il faut une organisation, un process que le sentier permettait en réalité. Parce qu'il permettait la réactivité du tissu, la réactivité des livraisons, mais plus les volumes augmentaient de ces nombres de magasins, en fait, plus la capacité de production devenait impossible en France. Et il y a eu plusieurs freins par rapport à ça, inconnus qui sont les 35 heures, le deuxième qui était des contrôles massifs sur le secteur, à la fois à charge avec des préjugés en disant il y a du black, il y a du travail clandestin, il y a des immigrés, il y a des travailleurs qui travaillent on ne sait pas à quelle heure, ils travaillent le dimanche, ils font livrer. Il y a une charge un petit peu sur ce secteur. Et puis, effectivement, l'ouverture du monde du commerce, Chine, Bangladesh, etc., fait qu'il y a eu des déplacements assez forts. Alors sociologiquement, ça a eu des conséquences très fortes, mais économiquement, la France où l'Europe n'a pas su anticiper tout ça. On aurait pu trouver quelque chose, un mode d'organisation qui ne s'est pas trouvé. Et là, aujourd'hui, effectivement, les Chines, les Zara, etc., ont cassé un secteur, mais aussi parce que les maires au sens M-A-I-R-E-S, les mairies, ont ouvert n'importe quoi, n'importe comment, les villes, et ont saccagé les périphéries de nos villes, en fait, hein, avec ces supermarchés qui vont être partout.
Ce qui oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Richard, ce qui fait, mais là c'est un autre débat, que la France aurait pu avoir ses champions, parce que finalement, Zara, H&M et les autres nous ont volé nos méthodes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont...
Mais vous le dites, vous le racontez dans le livre, ça.
C'est effectivement quelque chose qui m'apparaît de manière évidente. C'est-à-dire, si vous voulez, ils ont repris ce qu'on faisait au sentier, c'est-à-dire des circuits courts avec des... On voit que cette veste marche. On s'organise pour fabriquer cette veste. Si elle ne marche pas, bah, tant pis, on se retrouve avec deux vestes et puis on les solde et tout va bien, quoi. Et ce mécanisme qui était très empirique, Zara l'a perfectionné. Ils étaient beaucoup plus rigoureux que nous et beaucoup plus structurés. Mais la France avait toute latitude, toute possibilité d'avoir un champion dans le textile. Or, il ne nous reste plus aucun champion dans le textile. Je parle de la basse couture, hein, le luxe, effectivement, la France est bien placée. Mais c'est très étonnant dans un pays, Richard décrit les causes, qui aujourd'hui pleure parce qu'il voit bien qu'il s'est désindustrialisé et que ça n'est pas quelque chose de souhaitable de se désindustrialiser.
Et d'ailleurs, il reste Kiabi et Decathlon, qui sont les deux derniers gros empires du textile. Hein, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, deux entreprises du Nord. Mais le commerce français a été inventé par les immigrés, et juifs en particulier. C'est-à-dire, la force du sentier, ce que décrit parfaitement le livre, il faut vraiment lire le livre de Guillaume, c'est que le sentier, c'est en fait d'être réactif et de sentir la rue, sentir les tendances, sentir les odeurs, les couleurs. Et le commerce français a été créé par ces immigrés juifs, alors les plus connus... On connaît un peu les galeries Lafayette, la famille Meyer et les magasins réunis, mais Grand Optical, Darty, la Fnac, un des deux associés était juif. On parlait de Célio, de Gosport, de Courir, de Segalo, de Pierre Rapport pour la France. C'était des gens qui étaient au cœur en fait du peuple, exactement comme au sentier, et qui réagissaient très très vite.
Une culture du commerce. Rue rentrait dans la boutique, quoi.
Exactement.
Enfin, une manière de sentir ce qui se passe dans
C'était effectivement quelque chose qui était remarquable chez mon patron de l'époque, qui avait une grande aptitude à savoir que vos bottes, on allait en vendre, ou alors au contraire, pas du tout, jamais, et qu'il fallait...
Vous dites, il sait ce qu'on vendra dans six mois, ce qui se vendra dans 6 mois.
Oui, de manière complètement empirique. Ouais. C'était une intuition pure. Il n'y avait aucune méthode là-dedans. Mais c'était quelqu'un qui savait faire ça assez bien. Ce qui le distinguait, à mon avis, je ne dis pas du mal de tes associés hein, ou des gens que tu connaissais, mais ce qui te distinguait souvent des mecs du sentier qui étaient beaucoup plus opportunistes et qui, finalement, auraient pu faire des tables, des chaises, que vous voulez, lui avait un vrai rapport à la mode. Et je lui dois beaucoup, notamment pour la manière dont il m'a enseigné la mode et dont il me l'a fait comprendre.
Le livre, il commence chez le juge. À un moment donné, vous êtes dans une position un petit peu complexe, avec un avocat à vos côtés. Et ce qui est étrange, c'est les méthodes. Sur les méthodes de travail, en fait, tout est pensé dans un... Comment dire ? Tout le livre s'organise sous l'ombrelle d'un rapport à la loi et à la transgression, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui travaille le livre sous cet aspect-là et qui fait qu'à un moment donné, il y a un sentiment presque de révolte de voir la manière avec laquelle ce que vous appelez... Enfin, il y a un personnage qui s'appelle Philippe Green, faudrait le décrire, je pense. D'injustice face à la manière avec laquelle ce capitalisme prédateur, avec toute la légitimité, la légalité de la puissance, vient vous mettre un juge dans les pattes et qui vous dit vous avez péché, vous avez transgressé, oui. et vous ne savez pas comment réagir dans cette situation.
Oui, hein. On était des pêcheurs, c'est-à-dire que notamment à la fin, donc la question c'était la survie, c'est-à-dire la survie c'est concrètement faire les salaires. Et pour faire les salaires, il faut notamment faire parfois des bêtises, par exemple un procédé très utilisé au sentier, c'est la cavalerie, c'est-à-dire l'idée de prendre une traite et de la déposer non pas dans une banque, mais dans deux banques. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'illégal, puisque ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous doit 100 euros, la banque va vous donner 200 euros, donc c'est très très bien pendant un moment, mais ensuite, comment, avec les 100 euros de marchandises que vous allez toucher, vous allez rembourser les 200 euros des banques? C'est là où vos problèmes deviennent compliqués, sauf si Richard a une solution.
Justement, c'est... En fait, toute la chaîne a été un peu responsable, parce que les banques avaient cette... C'est aussi les banques des années 80-90, le Crédit Lyonnais. Donc, on cible le sentier, effectivement, parce que c'est visible. Mais à un moment, les banques françaises, notamment, hein, la BGC, des opérateurs comme ça, et le Crédit Lyonnais, ont perdu pied sur la réalité. Et la personne qui a envie de survivre, celui qui arrivait de Tunisie, qui arrivait d'Algérie, du Yémen, d'Égypte, qui était déporté, sa volonté de vivre, de créer, parfois les limites sautaient, mais il pouvait pas être tout seul dans sa folie créatrice et d'inventer. Alors on pourra expliquer mieux peut-être ce qu'est une traite, mais en fait on espérait des commandes à arriver. Mais les banques, elles étaient quelque part lucides. Le système était comme ça, les fournisseurs, enfin c'était... Une folie des années 80-90, dans laquelle on a connu ça aussi sur la crise immobilière. On le voit dans d'autres films, comme les films sur la crise des subprimes. C'est exactement le même mécanisme. Là, on le voit sur le micro-sentier. Mais en fait, il y a une folie de l'argent des années 90-2000. Et le sentier, en fait, c'est le plus sympa, j'allais dire.
C'est le plus sympa, parce que, alors, par exemple, tu parles de Philippe Green. Alors, Philippe Green est inconnu en France. C'est un financier qui, lui, a racheté des boîtes en Angleterre, en a racheté énormément, vivait à Monaco, faisait Londres, Monaco...
Philippe Green, le diable, hein, vous dites.
Oui, ce type était le diable. Alors, en plus, on a appris récemment que, non content de faire toute une série de montages financiers hasardeux, il avait de surcroît été harceleur. Enfin bref, c'est un tableau complet. Mais donc, ce qui est très étonnant, c'est que ces types s'en sont bien sortis, alors que, bon, comme d'habitude, les petits commerçants, eux, s'en sont largement moins bien sortis. Et je ne doute pas qu'il y ait dans les multinationales des mécanismes d'optimisation fiscale. Je pense que c'est suffisamment bien documenté. Mais là aussi, si vous voulez, sont les petits commerçants qui, effectivement, franchissent de temps en temps la ligne jaune, qui sont inquiétés. Et puis, au-delà de ça, effectivement, vous avez raison, il y a une interrogation sur la transgression et notamment sur le respect des lois. Et je me suis toujours dit que les gens de la génération de mes parents et de mes grands-parents donc, sont des gens qui ne pouvaient pas avoir un rapport normal avec l'État français. C'est-à-dire, mon grand-père, par exemple, il a appris à désobéir parce que lorsque l'État français lui a dit de se faire recenser comme juif, il n'y est pas allé.
Vous dites de lui, à un moment donné, il était méfiant comme un juif en France.
Évidemment. évidemment. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont survécu et se méfiaient de tout le monde. Ils se méfiaient de la concierge. Pas la peine de chercher à comprendre pourquoi ils se méfiaient de la concierge. Ils changeaient de trottoir dès qu'ils voyaient un flic. Enfin bref, je veux dire, leur habitus, pas la peine d'être un grand historien pour comprendre d'où ils venaient. Et je me dis que ces gens-là ne pouvaient pas avoir un rapport à la loi normal. Ils avaient nécessairement, si vous voulez, une sorte de méfiance.
Il y a quelque chose comme un habitus qui se transmet. C'est ça que vous mettez en scène d'emblée comme quelqu'un qui est regardé par un juge.
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, ça, alors ça, pour le coup, je l'ai très bien compris en lisant Durkheim. C'est-à-dire que Durkheim, et la phrase a fait scandale,
grand fondateur de la sociologie.
Oui, pionnier de la sociologie française, juif, petit-fils de rabbin. Durkheim dit « le crime est normal ». Donc, on est évidemment scandalisé par cette phrase. Et il dit « ce qui est normal, c'est le couple du crime et de la peine ». Et, explique-t-il, un pays où le crime serait banni ne serait pas un pays normal. Et effectivement, je pense qu'on est dans cette dualité-là. Le sentier était dans cette dualité-là. Et le caractère délibérément transgressif d'un certain nombre d'opérations, il s'explique là aussi comme ça. C'est-à-dire que finalement, lorsque vous obligez les individus à vivre dans les marges, eh bien, ils apprennent à vivre dans les marges. Et ils vivent des marges. Et effectivement, les miens étaient extraordinairement débrouillards, extraordinairement rusés, parce que, bon, c'est ce qui leur avait permis de survivre, de mentir à l'agent, de descendre avant qu'il ne fallait descendre, de se faufiler là où il ne fallait pas se faufiler. Bon, ils s'étaient construits comme ça, et je ne crois pas particulièrement dans la transmission jungienne des caractères comportementaux, mais je me dis qu'il doit y avoir quelque chose de cela en moi, évidemment.
Je vais vous poser quelques dernières questions sur la fin du livre qui éclaire sa trajectoire générale. Il y a des phrases troublantes, paradoxales, comme « la faillite m'a libéré ». Vous mettez en scène cette faillite de la City et la manière avec laquelle vous allez sortir de ce monde en le mettant en lien avec le 11 septembre, parce que c'est 2001,
c'est ça se fait au même moment.
Bon, autrement dit, on comprend bien, on le comprend, on le voit évidemment tout au long du livre, mais on comprend à la fin du livre de manière extrêmement explicite que vous avez voulu écrire quelque chose comme un récit de formation. Et le récit d'une émancipation, dans une certaine mesure. Parce qu'il fallait... Vous êtes passé par le chemin de thèse, vous avez aimé ça, vous y avez appris beaucoup de choses. Vous dites que ce n'est pas un traité de sociologie, mais on perçoit quand même une organisation sociale, vous montrez des mécanismes, etc. Mais il fallait en sortir aussi. Vous rêviez d'autre chose. Vous étiez dans votre bain originaire, on pourrait dire, mais vous vouliez être journaliste, vous vouliez faire Sciences Po, vous vouliez faire une thèse de socio, votre père vous mettait des bâtons dans les roues par rapport à ça. Et vous étiez... On sent que vous aimiez être dans un endroit que vous vouliez quitter, quelque chose comme ça. D'où le terme « la faillite m'a libéré ». Moi, là, on a envie de revenir sur cette idée de votre chronique du Schmattes comme récit de formation avec quelqu'un qui, finalement, à la fin du moment de la chute, va s'émanciper, au fond. C'est ça, votre histoire ?
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire de ce livre, je veux dire.
J'ai eu la sensation de sortir du ghetto. D'abord, je voulais être journaliste, je l'ai toujours voulu. Mon père, pour des raisons plus psychologiques qu'autre chose, considérait que ça n'était pas un métier pour les juifs. Je veux dire, c'était évidemment absurde, mais toutes les croyances sont absurdes, ou beaucoup de croyances sont absurdes. Et donc, je suis allé de mauvaise décision en mauvaise décision. Donc ça a été libérateur, alors même que j'avais la sensation à 33 ans que ma vie s'arrêtait, puisque je faisais faillite, j'avais pas un rond. J'avais plus de petite copine, j'avais plus de scooter parce qu'on me l'avait volé. Enfin bref, c'était une situation un peu, disons, dans le trou, au fond du trou. Et effectivement, ça a été très libérateur. Et puis par ailleurs, consécutivement, ça correspond à la fin d'un monde, puisque la City a fait faillite 2 jours avant le 11 septembre, ce qui fait que l'événement a été éclipsé, injustement. Mais, puisque le 11 septembre a eu quelques répercussions, mais c'est aussi la fin d'un monde, parce que toutes ces années 90 me semblent rétrospectivement des années à la fois folles, comme le disait Richard, sur le plan donc, de l'argent, assez heureuses, avec une forme d'utopie, et donc du... de la victoire définitive du capitalisme, de la démocratie et de la société libérale. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus le même genre d'utopie qui nous anime et que l'on a en face de soi.
Oui, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une histoire juive. Schmattes, c'est une histoire juive. Le livre est remarquable. On a parfait une sociologie du vêtement et du judaïsme, mais c'est vrai que la création d'Adam et Ève, ils deviennent hommes et responsables quand ils sont face à leur nudité et ils mettent un vêtement. Et après, il y a toute la tradition de l'habit dans la Bible. Donc le judaïsme et le textile, c'est presque... ou même l'humanité et le textile, c'est la base. Hein. La nudité, c'est vraiment la rupture que met la Bible. Et ce qui est intéressant, dans le livre, par rapport à ça, c'est que quand Guillaume le rapproche de la faillite, en fait, on est... Là aussi, c'est un parcours... Alors, Stéphane, vous parliez de Barry Lyndon, mais c'est un parcours presque du roi Shaoul aussi. C'est-à-dire, au début, il est béni des dieux, il entend Dieu, enfin au moins un, et il a le prophète Samuel qui le guide, et puis à la fin, il explose parce qu'il est roi. Mais dans le sentier, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ces gens-là, en ayant tout vécu, à trouver une force de vie, une force de revenu, une force de protéger leur famille, leurs amis, parce qu'il y avait une notion d'amitié très forte. Et de confiance, parce qu'on le voit dans La Vérité Sigismond, pour y revenir, fais-moi conf, mais c'était vraiment ça, on faisait confiance. Alors, de temps en temps, il fallait remettre un peu d'ordre, mais... Et quand, en fait, Guillaume dit, j'attendais la faillite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement le fait d'arrêter, c'est qu'il sentait que cette capacité de protéger un monde, lui-même, son entourage, sa moto, sa petite copine, ses parents, tout ça, ça s'effondrait, et payer 700 salaires... Moi, je trouve que cette angoisse-là, elle est extrêmement bien décrite dans le livre, parce que c'est ça aussi l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a conscience qu'il a des équipes, des salariés, des responsabilités. Et en fait, il l'étouffait. Et là, on est aussi dans une démarche, c'est pas Sisyphe qui retombe de son rocher, mais oui, quelque part, il fallait...
Chaque mois, tu dois les faire, les 700 salaires.
Voilà. Chaque mois, on monte là-haut, ça y est, j'ai passé mes loyers, mes salaires. Et c'est ça l'entrepreneur. Et c'est ça pour ça qu'on dit que la mode, ça ne s'enseigne pas, ça s'apprend au quotidien. C'est ça, c'est que cette angoisse-là, hein, c'est l'angoisse du gardien de but, comme aurait dit un autre écrivain allemand au moment du penalty, bah c'est ça, c'est cette angoisse incroyable que écrit Guillaume, c'est que faire ses salaires, respecter la parole qu'on a donnée, en fait, il ne pouvait plus. Ni Guillaume, ni son binôme de la City. Et je pense que le besoin de faire faillite, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment, il ne peut plus être dans une forme d'éthique de l'entrepreneur que Guillaume était.
Ouais, je voudrais quand même rebondir sur l'expression que vous avez employée tout à l'heure, Guillaume, sortir du ghetto. Il fallait sortir du ghetto. Pour vous, c'était étouffant quand même ?
Oui, c'était étouffant parce que d'abord, c'était un monde... j'étais très heureux d'y être, notamment les premières années, quand ça marchait bien, c'était grisant. Mais si vous voulez, alors ensuite, chacun est libre d'eux. Mais bon, le textile, pour moi, était un peu enfermant. C'était une manière... Si vous voulez, les entrepreneurs, Richard le sait, sont des gens assez obsessionnels. Donc, ils pensent qu'à leur affaire, et c'est probablement indispensable pour que ça marche. Mais il y a un moment où, vous voyez, le monde existe, il y a de la lumière dehors. Et moi, c'est vrai que, voilà, ça m'intéressait plus de décrire le monde plutôt que de réfléchir aux collections d'après, quoi. Donc, j'ai vécu cela comme une libération. Et puis, rétrospectivement, je m'aperçois que ça a été une chance, puisque si la City avait poursuivi sa route, je serais peut-être toujours salarié de la City et j'aurais eu du mal à faire ce que j'ai fait depuis lors.
Bon, ben, en tout cas, on pourrait évidemment épiloguer encore sur l'histoire du sentier. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à vous, Stéphane.
Je voudrais vraiment rappeler cette chose très étonnante dans le livre, que cette articulation entre la chronique et le récit d'un monde social et le récit de formation, l'auto-analyse, l'histoire juive singulière, que vous racontez ou vous dévoilez, enfin avec beaucoup d'humour. Et ces deux aspects sont entremêlés dans le livre d'une manière extrêmement subtile. Merci Guillaume. Merci
à vous. Merci Stéphane, merci Guillaume.